table ronde numéro 1. Vous pouvez lire le titre, on va se concentrer sur l'autoconsommation, qui est donc un de nos sujets d'études avec les étudiants depuis l'année dernière, et globalement depuis à la fois Gérant d'Habitat et le conseil départemental de Dordogne ont commencé à nous faire confiance, je vais le dire comme ça, merci à eux. Donc vous avez des intervenants qui vont se présenter, j'ai assez parlé pour l'instant. Et donc on organisera en fait notre table ronde en quatre temps. Un premier temps où chacun va se présenter, donner un mot sur l'autoconsommation. Ensuite, l'objectif c'est de présenter l'autoconsommation individuelle et surtout collective, en commençant par des projets concrets. Donc on a des témoignages des représentants directs d'expérimentations en cours. En quoi ces modalités de production-consommation se développent et pourraient représenter un vecteur privilégié de réussite de la transition énergétique, pour enfin partager quand même un certain nombre de questions et d'implications qu'un tel développement supposerait, notamment au niveau des réseaux et des enjeux de solidarité territoriale. Je passe la parole. On avait dit Monsieur Lejeune.
Bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'on a un temps assez limité pour se présenter, donc je vais être assez court. Alors, je suis Jean-Luc Lajousse, directeur du patrimoine de Gérant d'Habitat. Gérant d'Habitat, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est un bailleur social établi en Gironde. Nous sommes rattachés à une collectivité locale qui est le département. Ceci veut dire que c'est le département qui a la grosse majorité dans notre conseil d'administration, mais nous vivons par nous-mêmes. Au niveau patrimoine, nous avons un peu plus de 18 200 logements répartis sur tout le département. En gros, 60% sur la métropole et 40% dans tout le reste du département. Et quand je dis tout le reste, nous sommes bien sûr présents sur les lieux où il y a beaucoup de demandes, type Bassin, Arcachon, Libourne, mais aussi nous avons des logements au Verdon, à Capcieux, à Pellegru, pour ceux qui sont poussés, ou des endroits comme ça, des résidences de toute taille. Alors je vais parler un peu plus tard de l'opération d'autoconsommation collective sur la résidence des souffleurs qui se situe à Bordeaux, qui est pour nous, enfin je considère aussi une opportunité d'avoir pu lancer cette opération.
Bonjour à tous, je m'appelle Ludovic Cohen, je suis étudiant en Master 2 Recherche en Histoire Contemporaine. Je travaille sur la perception des énergies renouvelables par les Aquitains depuis les années 80, sous la direction de M. Christophe Pounot, qui est ici. Et je suis également étudiant-chercheur à l'HRS7 depuis bientôt 2 ans. J'ai notamment travaillé avec Gérant d'Habitat et en partenariat avec Gérant d'Habitat à la Chaire, avec également Jean-Baptiste, qui est ici présent, sur l'autoconsommation collective en milieu urbain, ainsi qu'avec le syndicat départemental d'énergie électrique de Gironde, sur le sujet de la complémentarité des territoires en Gironde. Et je réalise actuellement un stage avec le conseil départemental de Dordogne sur le diagnostic d'autoconsommation. Pour moi, l'autoconsommation, en une idée, c'est deux paradoxes essentiels. Le premier, c'est le paradoxe entre local et global, puisque on a tendance à voir l'autoconsommation comme un phénomène seulement local qui fait intervenir une quantité limitée d'acteurs, alors qu'en réalité c'est un phénomène qui est global, pas au sens géographique, mais au sens où il fait intervenir un système complexe et diversifié d'acteurs qui sont interconnectés et interdépendants les uns avec les autres. Le deuxième paradoxe, donc ça c'est pour le paradoxe entre local et global. Le deuxième paradoxe, il est pour moi entre simplicité et complexité. On a tendance à associer l'autoconsommation à un processus relativement simple, en comparaison du fonctionnement du système national et centralisé de distribution d'énergie tel qu'on le connaît. En réalité, l'autoconsommation, c'est un processus qui est beaucoup plus complexe que ce qui nous paraît, pour deux raisons. La première, c'est que l'autoconsommation, elle renvoie à des complexités réglementaires, puisque elle est encadrée depuis peu, depuis 2017, une loi qui s'intègre à la loi de transition énergétique sur la croissance verte. Et la deuxième complexité, elle est d'ordre organisationnel, puisque l'autoconsommation, elle renvoie à des complexité logistique et, comme je le disais, d'interdépendance et d'interconnexion entre les acteurs.
Bonjour à tout le monde. Donc, Guillaume Guichard, je travaille au Conseil départemental de la Dordogne. Alors, tel un électron, j'ai eu l'opportunité de travailler dans toute la chaîne de l'énergie. Donc, j'ai travaillé sur une plateforme pétrolière où mon objectif était de produire le plus d'énergie possible. Puis sur un site de production d'électricité, ensuite au syndicat d'électrification de la Dordogne où j'ai eu beaucoup de relations notamment avec Enedis Dordogne. Et maintenant, mon objectif, contrairement à celui qui était dans ma première expérience professionnelle, c'est de consommer le moins d'énergie possible. Cette approche de l'autoconsommation, elle nous est venue dans le fait d'avoir des objectifs et effectivement de consommer le moins d'énergie possible pour des objectifs environnementaux, mais également des objectifs purement financiers. C'est-à-dire que les contraintes financières actuelles nous amènent souvent à avoir de bonnes idées, en tout cas à réfléchir sur la gestion de notre patrimoine et notre patrimoine immobilier. Donc aujourd'hui, au Conseil départemental de la Dordogne, je m'occupe de la gestion énergétique du patrimoine départemental, les collèges et tous les autres bâtiments tertiaires qui peuvent exister. Donc je travaille sur l'autoconsommation, mais également dans un sens un peu plus global, un peu plus général, sur comment on consomme mieux, comment avoir une politique d'achat d'énergie, comment on consomme mieux, comment on consomme moins, et quelles sont les solutions existantes pour moins consommer. Et donc l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation collective permettent en partie, mais seulement en partie, de résoudre ces difficultés.
Merci. Je m'appelle Patrick Bem. D'abord, je remercie Cyril de cette invitation. Je suis ravi d'être ici. Le lieu est tellement magnifique que rien que pour ça, ça vaut le coup. Je travaille dans l'énergie depuis le début des années 2000, donc c'est beaucoup, mais j'ai eu d'autres expériences avant. C'est toujours intéressant de voir un petit peu les différents domaines d'activité et ça donne une vision plus binoculaire, on va dire, par rapport à un domaine donné. J'ai créé la coopérative Edercop avec d'autres au début des années 2000 et j'ai, fin 2014, j'étais directeur général de cette coopérative, donc de fournisseur d'électricité renouvelable. Et je suis toujours, parce qu'on ne quitte jamais Edercop, toujours administrateur de cette coopérative qui compte aujourd'hui environ 15 000 consommateurs. En 2014, j'ai quitté un peu Enercop pour élargir un petit peu mon spectre et je suis allé au laboratoire de l'ESS. L'ESS, ça veut dire économie sociale et solidaire. Alors le labo de l'ESS, pour le faire court, c'est ce qu'on appelle un think tank en bon français. C'est un endroit où on réfléchit. Et l'idée particulière du labo de l'ESS est de voir comment la transition sociétale, donc au-delà de la transition énergétique, il y a d'autres transitions, on a parlé de transition numérique, mais il y a aussi la transition alimentaire, et aussi la planète. En tout cas, on est dans une phase de nécessité absolue de transition globale, on va dire, de notre humanité, pour pouvoir la remettre sur des rails un peu plus pérennes, si on veut qu'elle continue son aventure sur notre planète. Et l'idée du labo, c'est de faire effet de levier pour accélérer un certain nombre de transitions, par le biais des structures de l'économie sociale et solidaire, donc des entreprises qui sont un secteur d'activité extrêmement actif en France, extrêmement présent, et qui est un rouage extrêmement intéressant qu'on peut pouvoir activer pour justement accélérer les choses. Voilà. Alors, un tout petit mot sur l'autoconsommation pour commencer, c'était ce qu'on nous a demandé. Hein. Je crois simplement, dans l'analyse qu'on en a aujourd'hui, il nous semble que l'autoconsommation pourrait être. Vous voyez, mais j'utilise le conditionnel, c'est vrai que ce n'est pas encore complètement le cas, mais ça pourrait être en tout cas un accélérateur formidable sur la transition énergétique, au moins à deux titres. D'abord pour le développement des énergies renouvelables, en particulier, mais pas exclusivement, le photovoltaïque, bien sûr. Et deuxième point, je crois vraiment qu'il y a une nécessité absolue d'avoir une meilleure réappropriation du sujet de l'énergie par l'ensemble des citoyens. On est encore très loin de cet état de choses, et on y reviendra tout à l'heure peut-être. Et je pense qu'effectivement, l'autoconsommation, à la fois individuelle mais aussi collective, est peut-être un formidable moyen d'accélérer cette meilleure réappropriation citoyenne qu'on appelle de nouveau. On y reviendra sûrement. Voilà.
Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Jean-Baptiste Bouest. Je suis. Donc je suis étudiant en Master 1, donc sous la direction de M. Bounot. Je réalise un mémoire notamment sur l'évolution du système énergétique en Aquitaine depuis les années 80. Et du coup, je suis chargé de projet de la chaire depuis janvier 2019. Et si on devait dire quelques mots sur l'autoconsommation, donc c'est, on l'a compris, un nouveau mode de consommation où il y a une logique de circuit court, où il y a une logique aussi de production décentralisée. Mais pour autant, derrière ça, il y a une contradiction, enfin, on peut le voir comme une contradiction, avec deux phénomènes sous-jacents, sous cette, ce prisme de l'autoconsommation. C'est à la fois... le concept de transition numérique et le concept d'enjeu environnemental. On a une responsabilisation d'un point de vue environnemental, on nous demande toujours d'agir sur notre propre consommation. Et d'un autre côté, en ajoutant des outils numériques à notre gestion électrique, eh bien, on déresponsabilise l'usager à agir sur son système énergétique propre. Et à ce moment-là, c'est comment concilier déresponsabilisation par les outils numériques, mais responsabilisation d'un point de vue environnemental, etc. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais envie de dire sur l'autoconso. On reviendra après sur le projet d'autoconso du bâtiment des souffleurs. Et on va commencer avec une petite synthèse sur ce que c'est que l'autoconsommation. C'est quelque chose de plutôt flou pour la plupart. Déjà, autoconsommation, ça veut dire consommer une énergie produite sur place. On va surtout parler de l'autoconsommation collective, puisque c'est le type d'autoconsommation qui soulève le plus d'enjeux à la fois sociologiques et puis techniques. Donc il y a deux modes d'autoconsommation, l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation collective. Ces deux modes d'autoconsommation ont été non pas autorisés mais réglementés par la loi dont parlait Ludovic tout à l'heure, qui est la loi du 24 février 2017. Là, je vais reprendre mes notes pour exactement vous citer, l'article de loi qui, en fait, définit l'autoconsommation comme le fait que l'électricité soit fournie entre un ou plusieurs consommateurs et entre un ou plusieurs producteurs qui sont liés entre eux au sein de ce qu'on appelle une personne morale, je reviendrai après dessus, soutirant et injectant leur énergie autoproduite sur un même poste de distribution publique d'électricité, bien que cette notion de poste de distribution de public d'électricité soit encore en débat, enfin, soit en débat puisque on parle de l'éventualité de l'extension du périmètre à 1 km sur les opérations d'autoconsommation. Quand je parle de personne morale, c'est une sorte d'association au sein duquel se regroupent tous les parties prenantes de projets d'autoconsommation, notamment par exemple le projet de Gironde Habitat, où on a tous les consommateurs et les producteurs qui se réunissent afin de définir ce qu'on appelle des clés de répartition. Donc, c'est-à-dire la répartition de la production des panneaux photovoltaïques et puis l'attribuer au nombre de ménages, etc. Et puis en cas d'énergie, de surplus énergétique produit, eh bien, il est réenvoyé sur le réseau. Et en cas au moment où l'autoconsommation ne suffit pas, eh bien, il y a le réseau qui reste en fourniture de complément. Maintenant que ce cadre est précisé, on va évoquer tous ensemble plusieurs cadres collectifs, plusieurs mobilisations collectives dans des projets d'autoconsommation. On va avoir l'avis d'un bailleur social représenté ici par M. Lajoux sur un bâtiment. On va avoir aussi l'avis du représentant d'un collectif citoyen, producteur, fournisseur, Enercop, qui est représenté ici par M. Ben, et puis aussi l'avis d'une personne représentant une collectivité locale, en l'occurrence le département de la Dordogne, représenté ici par M. Guichard. Alors là, je laisse la parole à...
Mais je vais vous parler de l'expérimentation sur l'autoconsommation collective sur la résidence des souffleurs. Alors, j'emploie à terme expérimentation d'autoconsommation collective et non pas projet, tout simplement pour la raison suivante. En fait, si nous avons pu signer une convention d'autoconsommation collective sur ce bâtiment, c'est un concours de circonstances en quelque sorte. Il se trouve que c'est la première en France, donc elle est sous le feu des projecteurs. Et j'ai appris donc que la crise s'est occupée maintenant. Pourquoi ? Alors, pour ceux qui savent où nous sommes implantés derrière la gare dans le quartier Belsier, qui est en pleine construction en ce moment. Là. Et la résidence des souffleurs, c'est le bâtiment jaune qui est au pied de l'arrêt Belsier du tram, pour ceux qui connaissent. C'est une résidence que nous avons imaginée à cet endroit-là en 2010. Donc ça remonte assez loin. Et là, nous avions demandé donc, aux équipes de maîtrise d'œuvre de nous construire une soixantaine de logements avec des locaux commerciaux en rez-de-chaussée qui devaient atteindre à l'époque le niveau de performance THPE 2005. Nous sommes soumis, quand nous construisons des bâtiments neufs, à une réglementation thermique. À l'époque, c'était la réglementation thermique qui s'appliquait. Et THPE, c'est très haute performance énergétique. En gros, c'était la réglementation de base, moins 20% au niveau des consommations. Voilà. Concours d'architectes, etc. Début des travaux des architectes. Et puis, à ce stade-là, nous leur avons demandé de convertir cette résidence pour passer le THPE en label BBC et Finergie, bâtiment basse consommation. Moins de 50 kW du mètre carré en consommation. Ce qui était, à l'époque, donc on était en gros en 2012, ce qui était une performance, on recherchait une performance. L'autre idée était d'employer le maximum de bois aussi dans la construction de ce bâtiment. Les façades sont faites en ossature bois. Bon, donc le bâtiment, les études se sont faites, le permis de construire a été obtenu, le bâtiment a été construit et il a été livré fin 2014, en décembre 2014. Pour arriver au niveau de performance voulu, eh bien, il a fallu installer sur la toiture du bâtiment en gros 250 m² de panneaux photovoltaïques, représentant une centrale donc, photovoltaïque de 36 kW crête. Et que faire de cette électricité ? À l'époque, la seule possibilité était de revendre l'électricité à EDF, de la réinjecter dans le réseau contre des coûts qui allaient en baissant. Et de grosses difficultés pour accorder cette installation au réseau. Je ne connais pas toutes les difficultés qui sont encourues. On fait manquer toujours une signature, une vérification, etc. 2015, l'année 2015, pas possibilité de raccorder. Début 2016, pas possibilité de raccorder non plus. Eh bien, c'est à ce moment-là que nous avons demandé à un bureau d'études spécialisé photovoltaïque sur Bordeaux, INELIA. Nous leur avons dit, ben, ce bâtiment est juste à côté de notre siège. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'utiliser l'électricité produite pour l'utiliser donc sur le siège de Gironde Habitat qui est juste à côté ? Là, des études ont été menées également. La faisabilité s'est avérée tout à fait positive. Et nous en étions même arrivés à envisager donc, de raccorder l'électricité produite sur les souffleurs sur notre siège qui est juste mitoyen. Nous avions même obtenu pour ça des subventions régionales pour faire ce projet. Et là, donc début 2017, INELIA nous dit, eh bien voilà, c'était donc en février, un décret vient de paraître, l'autoconsommation collective est maintenant possible. Nous faisons partie, INELIA, d'un groupe un regroupement qui s'appelle Rexauto, qui a répondu à un appel d'offres de la région. Rexauto, c'est retour d'expérience en autoconsommation. Nous sommes prêts à étudier des accords pour étudier différents points d'autoconsommation. Il y avait des grandes surfaces, il y avait des communes qui envisageaient de faire de l'autoconsommation sur leurs locaux, etc. Nous n'avons pas de bâtiment de logement. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous rejoindre et qu'on regarde ce qui se passe en autoconsommation collective sur du logement ? Bien, nous avons dit banco. Alors pourquoi on a dit banco ? Parce que nous avons vu là l'opportunité de faire une expérimentation qui va, je suis sûr, nous aider dans l'avenir. Puisque pour atteindre les niveaux de performance voulus par la réglementation, les différentes réglementations qui s'appliquent à la construction des bâtiments neufs, aujourd'hui la RT 2012, nous sommes obligés d'installer des systèmes de production d'énergie complémentaires qui viennent compenser la consommation du bâtiment. Effectivement, quand on vit dans un bâtiment, on consomme. Donc pour compenser cette consommation, nous sommes obligés d'installer des systèmes de production d'énergie. Ceci est d'autant plus vrai quand on est dans des secteurs qui ne sont pas, desservis par le gaz, et Dieu sait, en Gironde, s'il y en a, où nous construisons donc des bâtiments alimentés en électricité uniquement. Donc que faire de cette énergie que l'on va installer sur les toitures? Alors on peut, il y a différents types d'énergie possibles, hein. Le photovoltaïque en est une, et on pourrait parler de solaire thermique aussi. Bon, là nous avons quelques expériences qui nous montrent que c'est quand même plus compliqué à installer, à concevoir, à installer, à maintenir. Bon, donc pour l'instant, le photovoltaïque nous semble être la manière de produire de l'énergie sur un bâtiment qui est la qui a le meilleur rapport qualité-prix, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc oui. Donc voilà, donc nous sommes au printemps 2017, on a dit ok, on y va. Eh bien, il a fallu que tous les intervenants qui ont dû se retrouver au sein d'une pour pouvoir signer une convention en fin d'année, mais se retroussent les manches et puis s'activent sérieusement pour arriver donc à pouvoir signer cette première convention d'autoconsommation collective de France en décembre 2017. Alors, ensuite, au niveau déroulement de l'opération, alors techniquement, ça a été possible puisque ça s'est fait simultanément avec le début du développement de la pose des Linky en Gironde. Donc, il y a des compteurs Linky qui sont posés sur la résidence. Ensuite, techniquement, ça a déjà été dit ce matin, mais il n'y a pas de problème technique. Hein. Les fils existent, on les branche, et puis voilà. Quoi. Linky permet de mesurer, d'une part, l'électricité produite au pas de 30 minutes. Alors, pourquoi 30 minutes? Bien, la réglementation est comme ça aujourd'hui. De regarder sur chaque compteur les personnes qui sont dans la personne morale et chaque consommateur, combien ils consomment pas de 30 minutes, et d'appliquer la clé de répartition qui a été donnée à Enedis et qui dit sur ce compteur ils ont droit à 10 kWh, ils ont consommé 12, donc il n'y en a que 2 qui leur seront facturés. Je simplifie, je ne sais pas, je suis peut-être trop simpliste. Ou alors, ce compteur-là a droit à 10 kW, il n'en a consommé que 5, mais il y en a 5 qui repartent dans le réseau. Voilà, alors je reviendrai peut-être dessus si c'est le moment ou pas sur les difficultés que nous rencontrons par ailleurs, peut-être un peu plus tard. Ouais. Voilà, donc sinon, l'expérimentation s'est déroulée en deux temps, nous avons décidé de faire ça en deux temps. Dans un premier temps, pour voir comment ça fonctionnait, parce qu'on était les premiers, on essuie les plâtres. Hein. Nous n'avons mis dans la personne morale, quelque part, c'est presque de l'autoconsommation individuelle, nous n'avons mis dans la personne morale que Gironde Habitat producteur avec les panneaux, et Gironde Habitat consommateur, puisque c'est Gironde Habitat qui est titulaire des différents compteurs d'énergie, d'électricité qui alimentent les parties communes. Ascenseur, ventilation de l'immeuble, éclairage, etc. Et également Gironde Habitat consommateur, puisque nous occupons en pied d'immeuble un local de 150 m² où travaillent 6 ou 7 personnes en permanence. Donc nous l'avons rentré dans la personne morale. Et il était prévu que ça se fasse à partir de mi-2018. Là nous avons un peu de retard, c'est d'intégrer les locataires dans la personne morale. Et c'est là, je pense qu'on y reviendra plus tard aussi, que l'intervention de Lissette, avec qui les conventions ont été signées aussi, est tout à fait intéressante. J'en parlerai également un peu plus tard. Voilà, c'est qu'on a.
Est-ce qu'on pourra poser des questions? Cyril?
C'est oui.
Donc je vais vous parler de. Alors, on n'est pas aussi avancé en Dordogne que Gironde Habitat parce que nous n'avons pas de projet d'autoconsommation collective en fonctionnement aujourd'hui, mais néanmoins, nous sommes en phase d'étude et il va y avoir un appel d'offres qui est publié sur un projet qui était initialement de l'autoconsommation collective mais qui va devenir de consommation individuelle pour des raisons que je vais évoquer juste après. Alors, je vais vous parler de trois projets. Il y en a deux qui doivent apparaître sur les slides. Et l'autre projet, c'est un projet d'autoconsommation, mais alors là, ce n'est pas électrique, pour ça je commence à en parler. Il y a un méthaniseur qui se trouve en Dordogne, qui se trouve au lycée agricole de Dordogne, un petit méthaniseur. Et j'ai parlé un petit peu d'économie circulaire, et c'est un projet qu'on est en train de mettre en avant au conseil départemental. Alors ce méthaniseur qui est exploité par le lycée agricole produit donc du biogaz, et ce biogaz, ce méthaniseur est alimenté notamment par les déchets provenant du laboratoire départemental de Dordogne et également du restaurant administratif du département de la Dordogne et d'un tas de déchets qui auraient été enfouis initialement. On produit du biogaz, ce biogaz sert à produire de l'électricité, et l'électricité est vendue sur le réseau EDF, est vendue à EDF, un peu comme le même système que les panneaux photovoltaïques avant, avec un contrat d'obligation d'achat. Ce qui s'est passé sur ce projet, c'est qu'il y a une production thermique, et cette production thermique, on ne savait pas quoi en faire, et surtout qu'elle est assez fluctuante. Donc on s'est raccordé, juste à côté, nous nous sommes raccordés à un bâtiment, qui est le bâtiment des routes, qui appartient au conseil départemental, où on consomme l'énergie thermique. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les agents du conseil départemental qui bénéficient de l'énergie thermique produite par ces centrales de méthanisation vont manger dans un restaurant administratif ou travaillent au laboratoire départemental, produisent des déchets qui sont intégrés dans le méthaniseur, qui produit l'électricité, qui produit l'énergie thermique. Donc il y a une forme d'autoconsommation, ce n'est pas l'autoconsommation électrique, on va dire c'est l'autoconsommation énergétique un petit peu plus vaste. Je vais parler d'un premier projet, les archives départementales de Dordogne, donc c'est un bâtiment de 10 000 m² qui se trouve en plein cœur de Périgueux. Et nous avons une surface de toiture qui est disponible assez importante, 1500 m² à peu près. Et un bâtiment qui se prêtait à la pose de panneaux photovoltaïques. Alors c'est dans le cœur historique un petit peu de Périgueux, donc il a fallu bien évidemment voir avec les architectes du bâtiment de France de voir ce qu'il était possible et envisageable de faire. Donc l'idée que nous avions initialement, c'est... En fait, nous, un bâtiment en forme de L, et juste à côté, contigu à ce bâtiment, il y a un bâtiment qui nous appartient, où on a un certain nombre de services, mais également quelques locataires. Et nous sommes propriétaires de ces appartements, avec chaque locataire ayant son propre compteur d'électricité, ses propres besoins d'électricité. Donc l'idée qu'on en avait, c'est de faire de l'autoconsommation individuelle sur ce bâtiment, donc bénéficier sur les besoins électriques de ce bâtiment et en faire bénéficier en rajoutant quelques mètres carrés de panneaux sur le bâtiment qui se trouve juste à côté avec les différents locataires qu'il peut y avoir, sachant que ce sont des très très faibles consommations parce que c'est du chauffage au gaz. Donc des consommations vraiment très très faibles, mais ça permettait d'avoir un projet d'autoconsommation collective malgré tout. Alors l'idée c'était d'avoir une démarche globale sur la gestion patrimoniale de l'énergie de ce bâtiment. C'était avant de faire un projet d'autoconsommation, c'est de réfléchir sur comment mieux consommer dans ce bâtiment. Il ne s'agit pas de faire l'autoconsommation et de se dire ben voilà comment on va consommer l'énergie qui est produite. Donc il y a une démarche patrimoniale de savoir quels sont les bâtiments qui peuvent être éligibles à ce type de projet. Et c'est le bâtiment qui répond le plus facilement à cette problématique. Un bâtiment qui est énergivore, qui est très gros consommateur, enfin très gros émetteur de CO2, et la démarche était on améliore l'efficacité énergétique de ce bâtiment dans un premier temps, c'est comment on consomme et est-ce qu'on consomme quand on en a réellement besoin, c'est-à-dire les besoins thermiques et les besoins électriques de ce bâtiment. Donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon de gestion technique centralisée, c'est-à-dire automatiser la production, la distribution, la consommation d'énergie dans ce bâtiment, c'est-à-dire consommer quand quelqu'un a besoin. On a des besoins de production, il faut que les besoins de production s'adaptent aux besoins réels du bâtiment, et pas l'inverse, c'est-à-dire produire et qu'il y ait quelqu'un ou qu'il y ait personne, on chauffe le bâtiment, on ne le chauffe pas. Donc c'est comprendre un petit peu l'exploitation de ce bâtiment, et ça c'est important quand on doit faire un projet d'autoconsommation, surtout sur du patrimoine existant. Après, donc, c'était mieux consommé, donc ce bâtiment était raccordé à un réseau de chaleur bois, dont la maîtrise d'ouvrage est la ville de Périgueux, et donc de l'autoconsommation électrique sur la toiture de ce bâtiment. Alors c'est gros consommateur, parce qu'on consomme 300 MWh par an d'électricité, et c'est un consommateur notamment en période estivale. C'est-à-dire que la difficulté, bien évidemment, c'est quand on fait l'autoconsommation sur ce type de patrimoine, c'est de se dire est-ce que quand on produit, est-ce qu'on consomme en face ? Et c'est cette démarche qui n'est pas toujours évidente, donc c'est d'avoir, on en parlera peut-être après, c'est un taux d'autoconsommation qui soit suffisamment important, c'est de se dire que 80% de l'électricité qui sera produite par les panneaux photovoltaïques, ils seront réellement consommés sur place. Et un taux d'autoproduction de 30%, c'est-à-dire d'avoir 30% de la production d'électricité sur l'année qui viennent sur la production totale d'électricité du bâtiment. On va diminuer les consommations électriques de ce bâtiment de 30%. Pourquoi ce bâtiment? Ce bâtiment, il y a un calcul de rentabilité qui a été fait et le fait, on parle souvent de transition énergétique et ça coûte cher, enfin, c'est la problématique du prix de la transition énergétique. Et quand on cherche et quand on commence à connaître son patrimoine, et ça peut être un patrimoine en public, mais un patrimoine tout à fait privé, et bien, il y a des sources de rentabilité dans la transition énergétique. Et ce bâtiment, tel qu'il est, en 10 ans, au prix de l'électricité actuelle, en 10 ans, on rentabilise l'investissement qui sera réalisé sur ce bâtiment. On le rentabilise et on baisse, la problématique des collectivités territoriales, c'est les coûts de fonctionnement, et on investit de l'argent et on baisse les coûts de fonctionnement de la collectivité territoriale. Donc il y a un gain économique, mais il y a également un gain environnemental. Voilà. Et je pense qu'on ne peut pas faire de transition énergétique et de réflexion globale sur la diminution des émissions de CO2 s'il y a un coût financier qui est trop important. Et l'acceptabilité viendra de là. C'est-à-dire qu'il faut montrer qu'il existe des projets qui puissent être rentables. Et il en existe beaucoup, mais il faut les trouver. Ce n'est pas toujours évident. Donc là, il y a un appel d'offres qui va être publié dans une quinzaine de jours. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le premier bureau d'études qui a travaillé sur ce projet, c'est Inelia, donc qui a travaillé également sur Gironde Habitat. Et j'avais connaissance par Inelia, et puis également par Inelia, du projet Gironde Habitat, qui m'a également permis de mener une réflexion sur notre patrimoine. Le deuxième projet, qui est beaucoup moins avancé, ça concerne une emprise foncière que nous avons sur Périgueux, où nous avons un certain nombre de bâtiments très très diversifiés. Donc nous avons un gymnase, un centre archéologique, une bibliothèque départementale, un CIO, également des logements prioritaires dont la propriété est le département, et en fait on y loge un certain nombre d'agents départementaux, des stagiaires qui viennent exercer dans notre collectivité. L'intérêt de ce projet, c'est que nous avons des consommateurs très très diversifiés qui permettent notamment de répondre à un profil de consommation qui répond à un profil de production donné lieu photovoltaïque. Nous avons la surface disponible, c'est-à-dire la surface disponible en toiture protégée qui permet de poser des panneaux photovoltaïques avec des consommations qui ne sont pas très importantes, et en plus il y a une possibilité d'évolution de ce type de projet. Donc l'idée initiale, c'est d'alimenter en fait nos quatre propres bâtiments plus ces logements. Donc avec une personne morale qui serait le conseil départemental de la Dordogne, donc qui facilite entre guillemets la partie administrative du projet, parce que toutes les factures nous arrivent sur mon bureau et j'ai accès à l'ensemble des données. Ces quatre bâtiments en plus, donc là on est en phase d'étude parce qu'ils sont équipés de compteurs Linky. Donc l'intérêt en fait du compteur Linky dans ce type de projet, c'est-à-dire qu'on a l'historique des consommations de ces bâtiments, et on arrive à réfléchir sur comment on fait l'adéquation entre la production et la consommation. C'est toujours le nerf de la guerre. Et puis après, une possibilité, parce qu'on a du terrain disponible autour, une possossibilité d'étendre ce projet et d'augmenter la surface de panneaux photovoltaïques pour alimenter éventuellement un bailleur social. Alors, un petit mot marqué transformateur, mais le transformateur qui alimente le poste de distribution qui alimente l'ensemble de cette zone se trouve au pied du tour, une tour HLM qui a 80 logements. Et l'idée qu'on peut en avoir à terme également, c'est de permettre à ce bailleur social de bénéficier des panneaux photovoltaïques qui seraient investis par le département. Voilà, alors pour l'instant, c'est pas fait, c'est un travail de longue haleine, mais j'ai bon espoir parce que le projet me semble pertinent.
Merci. C'est Ludovic.
Donc, moi, je vais vous parler. Donc,
moi, je vais vous parler plus spécifiquement du cadre de la méthanisation, qui est, comme on l'a rappelé, une autre forme d'autoconsommation qui ne dépend pas de l'électricité, enfin, qui ne dépend pas directement des réseaux électriques. Donc, la méthanisation, comme l'a rappelé M. Guichard, c'est un système, un processus de production de biogaz par un procédé de fermentation à partir de matière organique. La méthanisation, elle a aussi pour conséquence de produire ce qu'on appelle le digesta. Le digesta, c'est des résidus qui sont issus du processus de fermentation des matières organiques. La méthanisation, c'est aussi un système, un circuit court, un système logistique qui doit être mis en place et qui doit être assuré par des acteurs, à la fois sur l'approvisionnement du méthaniseur, puisqu'il a besoin d'une certaine quantité de matière pour fonctionner, ce que je vous expliquerai après, mais aussi pour évacuer cette matière. Donc moi je me suis intéressé particulièrement au cas du méthaniseur de Bourgogne-Chamiers, donc du lycée agricole de Bourgogne-Chamiers près de Périgueux, qui a été installé en 2012. Donc ce méthaniseur, il a besoin de environ 1800 tonnes de matière organique pour fonctionner chaque année. Et donc l'approvisionnement de matière, il est assuré à la fois par le lycée, pour 2/3, mais aussi par des acteurs du territoire local, pour 1/3. Donc le lycée, il fournit principalement des lisiers de canards, 300 tonnes par an, ce qu'on peut voir sur la slide suivante. Voilà. Et pour 2/3, il fournit, pour 1/3, donc c'est des acteurs, d'autres acteurs du territoire local. Il s'agit par exemple d'un hypermarché qui fournit des invendus de fruits et légumes, de pâtisseries, des déchets de tonte de la ville de Périgueux, de la commune de Gaumier, également déchets de cantine de deux lycées de Périgueux et du CHU de Périgueux également. Donc voilà, et enfin une coopérative agricole dont un entrepôt est situé près du lycée, qui fournit elle des déchets céréaliers. Et la spécificité de cet acteur est qu'il vend lui ses déchets organiques au lycée, alors que les autres les donnent. Donc on remarque qu'il y a un système d'acteurs, donc comme je le disais tout à l'heure, qui est interdépendant et interconnecté, et qui assure le fonctionnement du méthaniseur. Puis il y a aussi un autre acteur, une exploitation agricole, qui récupère le digesta pour l'épandre sur son exploitation. Donc voilà, c'est donc un système qui est complet et complexe d'acteurs locaux, mais aussi inscrit dans une dynamique globale. Pour conclure sur ce point-là, le méthaniseur, pour résumer, permet de produire une énergie renouvelable, donc c'est sa première fonction. Ensuite, il permet également de valoriser des déchets organiques, ce qui est un enjeu important aujourd'hui. Donc, je pense par exemple aux réglementations sur les hypermarchés qui obligent en fait, entre guillemets, l'hypermarché à fournir des déchets organiques au lycée. Et encore un enjeu d'utilisation d'engrais non chimiques, ce qui est aussi un enjeu d'actualité, puisqu'il s'agit de valoriser l'utilisation d'engrais biologiques. Voilà. Et on parlera ensuite dans un troisième temps de la dimension sociale en fait, qu'il y a autour de ce projet de méthanisation, d'autoconsommation, qui dépasse, qui complète aussi la dimension technique et économique que je vous ai présenté là, en complément des éléments qu'avait fourni M. Kich.
Très bien, merci Ludovic. Je passe la parole à M. Bell.
Merci. Alors, concernant l'ENERCOP, très, très clairement, l'autoconsommation est évidemment à l'hygiène d'ENERCOP. Vous savez qu'ENERCOP s'est créé comme fournisseur opérant au niveau national français et assez rapidement a fait des petits en région, en une dizaine de coopératives régionales, dans l'espoir d'aller un peu vers du circuit un peu plus court et de rapprocher les productions des consommations. Voilà, terme, je vais un petit peu bien. Toujours est-il que si vous poussez cette logique jusqu'au bout, bah, vous tombez sur quoi? Vous tombez bien sûr sur l'autoconsommation. Donc on s'est intéressé à l'autoconsommation depuis longtemps à l'énergie. Alors pour fixer les idées, hein, je prends quelques ordres de grandeur, enfin, je parle sur le contrôle des hélices. Il y a environ, je crois, 35 000, grosso modo en France aujourd'hui, 35 000 sites d'autoconsommation, et qui sont extrêmement majoritairement de l'autoconsommation individuelle, de petite puissance. Et, par contre, dès que vous allez vers les choses un peu plus importantes, là je crois qu'il y en a une centaine, ça reste encore très, très, très petit, et très petit comparativement à d'autres pays européens, enfin, on en reviendra peut-être éventuellement plus tard, enfin, c'est pas le sujet tout de suite. Ça a été dit tout à l'heure, je crois, un élément clé dans l'autoconsommation pour que ça fasse sens, c'est bah, que vous consommiez ce que vous produisez, sinon ça va pas, on n'est pas vraiment dans la bonne équation. Or, malheureusement, vous savez que les courbes de production, surtout de photovoltaïque et les courbes de consommation, parce que ne collent pas très bien en individuel, puisque grosso modo, la photovoltaïque produit principalement autour de l'outil, et puis en termes de consommation, vous savez qu'il y a deux gros pics dans les ménages, hein, c'est plutôt le matin et le soir, évidemment, quand vous êtes là, si vous travaillez toute la journée, hein, vous n'êtes pas là au moment où vous produisez, et vous êtes là au moment où vous produisez beaucoup moins. Et donc, ça se traduit par des taux d'autoconsommation, hein, c'est-à-dire ce que vous véritablement consommez venant directement de votre production sur place, qui sont un petit peu difficiles. Donc il y a un intérêt énorme à foisonner, et donc l'autoconsommation collective semble faire bien davantage sens à ce point de vue-là, pour avoir des taux d'autoconsommation qui soient plus raisonnables. Et les taux, un taux qui est indicateur de 80% commence évidemment à être extrêmement intéressant. Alors, historiquement, on en est toujours au stade des expérimentations. Hein. Enfin, faut bien comprendre que, déjà, on y reviendra sans doute, mais la réglementation sur l'autoconsommation, en particulier collective, elle est en pleine mouvance. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont arrivées en 2018. Ça va évoluer, enfin, on sait. Donc on peut pour l'instant ne faire que des offres, on va dire, expérimentales. On a beaucoup travaillé historiquement avec Biocoop, vous savez, le magasin d'alimentation biologique, parce que c'est aussi un membre fondateur d'Enercoop, et donc très engagé non seulement sur l'idée de vouloir consommer vert, mais de vouloir également avoir une logique de circuit court le plus court possible. Alors historiquement, il y a un ou deux cas très très intéressants. Un peu essuyé les plâtres, mais je dois citer notamment le cas de la plateforme, une des plateformes de Biocoop, la plateforme Sud-Ouest, qui était un toit de 2000 m² quand même de solaire, c'est pas rien, qui était fait, donc c'était avec évidemment Enercoop et Enercoop Bretagne, en toute logique. Et donc ça, c'est un projet qui est notre premier projet un peu important sur le sujet. Plus récemment, je vais citer le cas d'une autre Biocoop dans le sud de l'Aveyron, à Saint-Afrique, un cas extrêmement intéressant et qui fonctionne et sur lequel on a pas mal de retours d'expérience. On commence à avoir des retours d'expérience intéressants. Donc là, c'est plutôt Enercoop qui s'occupait de ça. Donc l'idée, c'est un peu la même chose. C'est un magasin Biocoop qui a un toit qui se prête bien à une installation photovoltaïque. Et donc, on a défini avec Biocoop et avec également une clinique vétérinaire qui est juste à côté de ce Biocoop, un projet dans lequel effectivement, on a équipé le toit du magasin Biocoop de 36 kW de photovoltaïque. Et la consommation se répartit entre les besoins du magasin et ceux de la clinique vétérinaire qui sont à côté. Ce qui me semble intéressant, alors déjà, c'est effectivement intéressant puisque. Globalement, on arrive à un taux qui fasse sens économiquement. Je pense qu'effectivement, il faut que l'équation économique fasse sens, sinon ça ne marche pas bien. Quoi. Je pense qu'il faut véritablement qu'il y ait une logique de pérennité économique dans ce type de projet. Et on voit que, par ces expériences, certaines ont été citées, et j'en cite également moi-même, on arrive véritablement à des choses qui font sens, puisqu'on peut constater là que sur ce qui est, on a finalement un coût du kilowattheure qui baisse de 20% par rapport à ces opérations-là, donc c'est intéressant. Donc il y a également les surplus qui sont produits, qui sont rachetés donc, du coup, par Enercoop. Et l'idée la suivante, c'est que, alors vous savez que la réglementation impose qu'il y ait une personne morale qui soit un titre d'interface 2010, donc évidemment Enercoop Bretagne. Et là, c'est intéressant, Enercoop par Amélie Pérennet dans ce cas-là. Et c'est particulièrement intéressant parce qu'il y a quand même le problème de la refacturation, en fait, de la,
des différentes énergies que vous consommez, parce que celles que vous autoconsommez et celles qui finalement est le réseau, parce qu'il y a certainement, évidemment, en termes d'autoproduction, vous n'êtes pas à 100%, il y a quand même de l'énergie qui vient du réseau. Donc tout ça est un petit peu complexe, et avoir un fournisseur qui soit la personne morale qui permette d'un petit peu de faire cette interface-là permet effectivement d'avoir une meilleure maîtrise de cette chose-là. Voilà, donc on a quelques projets comme ça, on en a beaucoup d'autres en tuyaux. Au sein du labo de l'ESS, donc on lance une action autoconsommation aussi. Ce qui a été fait par Biocoop, il y a un potentiel extraordinaire auprès des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc certaines s'intéressent véritablement à ce type d'approche, alors, d'autant plus qu'il y a maintenant des expériences, comme je vous disais, qui fonctionnent. Donc on a pas mal, on a peu de temps pour en parler encore, mais on a pas mal de. On commence à avoir pas mal de projets avec des structures de l'économie sociale et solidaire dans ce sens-là. Le dernier cas que je voudrais citer, parce qu'il est assez emblématique, c'est celui qui est à Nantes, sur le marché commercial, vous avez, je crois, c'est 500 kW crête qui ont été installés dans l'autoconsommation. C'est un projet qui s'appelle Minawatt, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est aussi un projet sur lequel on attend beaucoup de retours, parce qu'en termes de dimensionnement, c'est plus intéressant. Et ça va permettre de donner un centre de référence pour et de convaincre les réalités pour les projets qui vont suivre. Voilà.
Merci beaucoup. Il me reste 25 minutes avant d'aller déjeuner. Ce que je retiens de cette première étape, c'est qu'effectivement, il y a eu le passage au vert de les feux réglementaires. De aussi souligner les éléments techniques, et je reviens juste sur l'aspect complexité des flux d'informations. Alors évidemment, il faut que ça fonctionne au technique, mais il y a aussi les différentes informations qui doivent aller vers les différents types d'acteurs. Et ça, je pense qu'on peut aussi souligner le rôle du gestionnaire qui assure cette distribution, respectant les contrats passés avec la personne morale, pour alimenter en cas de surplus aussi le fournisseur. Donc il y a différents systèmes. Deuxième temps proposé dans la discussion, c'est maintenant qu'on a bien compris les différents types de projets et notamment les différentes modalités d'implication collective avec différents types de structures porteuses. On s'est dit que ce serait intéressant d'évoquer, du coup, alors on n'a pas choisi. Si on se souvient de ce que j'ai pu dire dans la réunion précédente, les citoyens, usagers, consommateurs ou consommateurs, à la limite, c'est plus que le terme pour les caractériser, c'est la manière dont ils peuvent s'impliquer ou être accompagnés. Voilà. Donc, je vous repasse la parole, monsieur Lajoux, peut-être pour revenir sur les souffleurs.
Oui, merci. Tout d'abord, deux, trois chiffres. Donc, en 2018, nous avons produit, en gros, sur cette résidence, nous avons, le soleil a produit 36 000 kWh. En théorie, c'était 39. Avec l'hiver et le printemps particulièrement pluvieux l'année dernière, 36 000, ça correspond à la réalité rejoint la théorie. Quoi. Il n'y a pas de souci. Sur 2018, je rappelle qu'il n'y avait que les communs alimentés en autoconsommation et l'espace tertiaire occupé par Gérard d'Habitat. Nous n'avons eu qu'un tiers d'autoconsommation, en gros donc 12 000 kWh. Donc il reste potentiellement 24 000 kWh qui peuvent être utilisés quelque part par les locataires. Si on met ça en euros, ça fait en gros 1 200 € d'économie d'énergie économisée et 3 600 € potentiellement, 2 400 € potentiellement consommables par les locataires, ce qui ferait au total pour les locataires. Puisqu'ils payent dans leur charge le courant des communs, ce qui ferait au total un potentiel de 3 600 €. Alors 3 600 €, on peut dire tout ça pour 3 600 €, mais de notre côté, si on ramène ça au nombre de logements, il y a 60 logements, ça fait en gros 60 € par an d'économie d'électricité, ce qui est au-delà des consommations théoriques pour ce type de logement d'électricité ou... Avec le niveau BBC dont il bénéficie, il devrait consommer moins de 600 € pour ce qui est chauffage, production d'eau chaude. Donc ça fait une économie quand même de 10%. Si on avait la possibilité de diminuer les charges de nos locataires de 10%, tout le temps, ce serait magnifique, quoi. On en rêve. Donc, 3600 euros par FM, mais enfin, c'est une performance qui n'est pas négligeable. Voilà. Donc, comment faire maintenant pour intéresser les locataires? D'abord, il faut créer cette fameuse personne morale. Puisque pour que quelqu'un puisse bénéficier de ce qui est produit par le producteur, la personne morale, il faut qu'il intègre la personne morale. Comment faire? La seule solution qu'on ait trouvée, puis je participais à différentes réunions, ça semble être la meilleure, ça passe par la création d'une association loi 1901, où chacun est libre de venir ou de ne pas venir. Donc là, nous, bailleurs sociaux, ce n'est pas ce que nous avons l'habitude de faire, gérer des associations, monter et gérer des associations loi 1901. Bon, c'est une première difficulté pour nous. Bon, malgré tout, on s'y attend. On va déposer les statuts, là, puisque la famille délibérée, etc. Bon, je passe les arcanes administratives. Maintenant, sur les 60, il y a du travail qui a été mené à partir du deuxième semestre 2018, notamment avec l'appui de RICEP. Nous en sommes à, je crois, 17 ou 18 locataires ménages qui sont intéressés pour faire partie de l'association. Le travail qui va être amené maintenant, c'est d'essayer d'en intégrer le maximum et ensuite travailler avec eux pour savoir comment consommer cette électricité. Parce que, comme le disait M. Ben, dans les logements, les pics de consommation se font le matin ou le soir et rarement dans la journée. Quand on a affaire à une famille standard qui part travailler dans la journée, si vous avez affaire à des personnes âgées, elles sont là plus longtemps, ou des personnes sans emploi ou autre, on a tous les profils qui existent. Donc un des intérêts de notre intérêt de cette expérimentation, c'est d'essayer de voir ce qui se passe dans les logements où l'énergie principale est l'électricité au pas de 30 minutes. Parce qu'à la journée, on sait ce qui se passe, il n'y a pas de souci, même en fonction des saisons et tout ça, il n'y a pas de problème, les bureaux d'études savent calculer ça avec pas mal de précision. Mais au pas de 30 minutes, qu'est-ce qui se passe dans un logement au niveau consommation? Et bien pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Donc on compte bien sur cette expérimentation pour savoir ce qui se passe, qui pourra aider dans le futur d'ailleurs à concevoir des nouvelles installations. Qu'est-ce qui est le plus opportun de faire en matière de capacité de production? Alors, après, pourquoi intégrer les locataires là-dedans? Mais ça a déjà été dit, quoi. La transition énergétique, c'est quelque chose qui, dans lequel on va baigner nécessairement dans les années à venir, tous, autant qu'on est. Et les locataires, il faut leur faire comprendre. Et admettre que c'est intéressant pour eux d'éventuellement modifier leur mode de consommation. On regarde la météo le matin avant de partir, si on va travailler, si on voit qu'il va faire beau, on lance la machine à laver à midi ou 14h plutôt que de la lancer à 22 ou 23h en heure creuse, parce que ça coûtera forcément moins cher. Donc il y a des évolutions de comportement dont il va falloir convaincre les locataires d'y aller. Ça, c'est pas une mince affaire. Il y a ça, il y a les consommations en circuit court. Si on arrive à faire comprendre que tout produit d'électricité, on la consomme dessus, ça pourra initier des comportements sur d'autres types de consommation, alimentaire ou autre, ou vestimentaire, etc. Donc ça ne peut aller que dans le bon sens. Et là, il y a vraiment une nécessité d'accompagner les personnes pour que ça puisse se faire, tout ça. Parce que naturellement, changer les habitudes de chacun, réfléchissez chacun d'entre vous, ce qu'il en est pour vous, c'est très compliqué. Quand on a des habitudes et qu'on vous invite à en changer, c'est très très compliqué. Il faut juste le reconnaître, c'est une réalité. Et là, toutes les bonnes volontés et les connaissances qu'il peut y avoir au sein de RICEP avec le panel de personnes qui participent à cette expérimentation sont super intéressantes.
Justement, sur ce projet-là, moi je vais surtout faire une. Je vais surtout revenir en fait sur le stage, le cœur du stage que j'ai pu réaliser avec Ludovic, avec Marion, où en fait on a été depuis avril 2018 aligné sur ce projet d'autoconsommation collective. On a 17, 18, 16 locataires, il y en a plus ou moins qui sont réceptifs aux appels. Mais en tout cas, voilà, on a quasiment 20 personnes qui sont disposées à travailler avec nous sur ce projet-là. Nous, alors, en parallèle, on a établi un questionnaire. On a mené une série d'entretiens, pour l'instant on en a mené 8, afin de voilà, savoir à peu près leur degré d'implication, leur potentiel degré d'implication dans ce projet-là. Aussi, comprendre leur degré d'appropriation technologique, voir leur implication dans ce projet. Et tout cela nous a permis en fait, de réaliser un événement le 18 octobre dernier de médiation des sciences où on a souhaité vraiment apporter des informations aux locataires participants et pour l'instant pas au courant forcément de ce projet-là, donc impliquer le plus de monde possible dans ce projet. Avec un événement de médiation des sciences, on a mis en place des petits ateliers de médiation avec des vols de drone pour leur montrer des installations photovoltaïques, etc. Donc ça a plutôt bien marché, on a eu une bonne sollicitation de la part des locataires. Et puis à la suite de ça, on a rédigé un rapport d'étude. Et puis tout récemment, en février dernier, on a eu une réunion avec certains locataires pour parler autoconsommation, personne morale. Et puis une notion complémentaire de l'autoconsommation sur laquelle je vais revenir après, c'est la maîtrise de l'énergie, qui est une notion complètement complémentaire de l'autoconsommation. On a eu plusieurs enseignements tirés à partir de ce stage. On a un niveau d'acculturation aux technologies, au milieu énergétique qui est complètement différent d'un locataire à l'autre. Il y a des personnes qui sont très calées dans tout ce qui est compteur communicant, autoconsommation, etc. Et puis d'autres qui n'y prêtent même pas attention, qui ne lisent même pas leur facture. Parce que, ouais, donc, là, il y a tout ce, il y a vraiment un panel représentatif. Après, on a constaté avec ces rencontres les motivations, les freins pour adhérer à un tel projet. En termes de motivation, on a souvent entendu l'argument économique. L'argument écologique aussi revient, mais quand il rime souvent avec l'économie, c'est mieux. Et puis, en termes de freins, ça va être surtout le manque d'acculturation technologique, voilà, le manque de maîtrise technologique, principalement, et puis se désintéresser en tout cas. Enfin, un manque d'intérêt pour le milieu énergétique. Et puis la troisième chose, c'est qu'on a ressenti ce réel besoin d'information et d'accompagnement de la part des locataires qui ont vraiment émis le souhait de vouloir un peu plus d'informations et d'être impliqués collectivement dans ce projet-là. Et nous, en fait, son souhait, c'est dresser une feuille de route et puis dresser cette feuille avec une notion principale en toile de fond qui est l'assistance à maîtrise d'usage, c'est-à-dire accompagner, comprendre, expliquer aux locataires tous les tenants et les aboutissants pour modifier ou en tout cas adapter leur gestion de leur propre milieu énergétique et puis adapter leurs usages à ce nouveau mode de consommation. Et puis, alors je vais très vite pour conclure, j'introduis justement cette notion de maîtrise de l'énergie qui est une notion complètement complémentaire de l'autoconsommation. La courbe orange, vous le voyez, c'est les gains évités par la production photovoltaïque. On est dans un instant où on a 16 locataires pionniers qui participent pour l'instant au projet, qui souhaitent participer au projet. L'objectif est d'étendre ce projet-là aux 60. Et donc, inévitablement, les coûts évités par l'autoconsommation baissent puisqu'ils sont divisés par le nombre à chaque fois de participants. Et nous, on a cet objectif d'intégrer dans ce projet-là la notion de maîtrise de l'énergie, qui est une notion complémentaire de l'autoconsommation, je l'ai dit, et qui permet à la fois une optimisation financière individuelle et à la fois qui devient presque un objectif et un enjeu commun avec cette dimension collective qui est très importante dans ce projet. Et ce projet-là, je le résumerai en une phrase, en fait, c'est consommer mieux par l'autoconsommation, moins avec la maîtrise de l'énergie et ensemble avec la dimension collective de ce projet. Donc là, je vais passer la parole à...
Donc, pour compléter ce que dit Jean-Baptiste, simplement, je vais évoquer le cas de la méthanisation.
Je vais mettre en avant le fait que la méthanisation aussi, comme l'autoconsommation collective d'électricité par des sources photovoltaïques, elle fait appel à une évolution des pratiques sociales. Elle m'a en avant cette évolution-là. Le méthaniseur de Coulommiers-Chamiers, qui est mis en service en 2012, donc c'est beaucoup plus ancien que le projet de souffleur à Bessier. Et on a du recul de plus sur ce projet-là, avec déjà des données qui existent. Et ce projet donc, met en avant un processus d'acceptabilité sociale des technologies EMR. Une expression que j'emploie en référence à une sociologue qui s'appelle Marie-Christine Zelen et qui a écrit un ouvrage qui est tiré d'un article en 2012 de la revue de l'énergie. Voilà, l'acceptabilité sociale des énergies renouvelables, elle met bien en avant cette évolution des dynamiques sociales autour de la méthanisation. Alors, en 2012, il y a des entretiens, des enquêtes de terrain qui ont été réalisées sur l'acceptabilité sociale de la méthanisation par les riverains. Ces études montrent que les riverains ont une vision très négative globalement de la méthanisation. Donc c'est les riverains qui habitent près du lycée de Coulommiers-Chamiers. Ils ont notamment peur d'une éventuelle explosion, doute de la faisabilité du projet, craignent les odeurs qui peuvent engendrer un méthaniseur. Donc ça montre bien qu'il y a vraiment une mystique autour de ce qu'est un méthaniseur, de ce qu'est la méthanisation, parce que les gens en fait ne savent très très peu de choses sur le sujet. Puis quelques semaines plus tard, il y a une réunion d'information qui permet aux riverains d'échanger avec des experts de la méthanisation, des élus locaux, et qui leur permet en fait de prendre vraiment conscience de ce qu'est la méthanisation, de démystifier ce sujet, de démystifier ce qu'est la méthanisation, ce qu'est un méthaniseur. Et donc l'accompagnement et la communication autour du projet, donc ça revient un peu ce que disait Jean-Baptiste sur le bâtiment des souffleurs, ça va permettre vraiment de faire changer radicalement l'opinion des riverains. Et puis, une fois que le méthaniseur il est mis en service, là aussi, on a un enjeu social autour de son fonctionnement, puisqu'il faut adapter les pratiques des acteurs locaux, c'est-à-dire par exemple les agriculteurs, aux nouveaux débouchés qu'offre l'utilisation du méthaniseur. Par exemple, le digestat que j'ai évoqué précédemment, il doit être valorisé, et c'est un apprentissage aujourd'hui encore dans les entretiens que j'ai pu effectuer, les agriculteurs ils se questionnent sur la façon avec laquelle valoriser le digestat. Donc ça montre bien que la méthanisation c'est une pratique qui est sociale, qui est ancrée sur le territoire et qui fait intervenir un système d'acteurs interconnectés.
Merci Ludovic. Il nous reste officiellement 5 minutes. On verra, non mais peut-être que vous avez des questions aussi, et il ne faudrait surtout pas qu'on monopolise trop la parole, mais je propose que par rapport à ce qu'on avait imaginé, vous fassiez une forme de synthèse peut-être entre les idées, si c'est possible. Monsieur Guichard.
Alors je souscris bien évidemment à tout ce qui a été dit. Effectivement, ce que je ressens en moi, c'est que l'autoconsommation, même si ça a été productions qui sont peut-être faibles, etc., mais elles sont très symboliques parce qu'elles permettent de prendre en charge en fait, l'aspect énergie. Et jusqu'à présent, en fait, on adaptait les moyens de production aux besoins de consommation. Et c'est vrai qu'il faut peut-être aller dans l'autre sens et d'adapter la consommation aux capacités de production qui existent. On dimensionne des réseaux de distribution d'électricité ou des réseaux de distribution de transport. On les dimensionne à une pointe qu'on a 2 heures par an le 8 février. Ils sont dimensionnés tels quels, alors que ces réseaux, en fait, ils sont en surcapacité la plupart du temps. Et c'est vrai que l'autoconsommation doit permettre de faire preuve de pédagogie auprès des consommateurs d'énergie. Et ça permet de se rendre compte que, en fait, on vit dans un environnement qui est physique, Et cet environnement, bah, il ne donne ses ressources pas tout le temps. Et voilà, et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important dans l'autoconsommation. C'est la pédagogie qui peut y avoir.
Il faut faire il y a énormément à dire, comme je vais prendre 2 minutes quand même. Autoconsommation, soyons efficaces. Alors, dans l'ordre, ça a été dit, je pense qu'il y a pas mal de freins aujourd'hui à l'autoconsommation, encore aujourd'hui. On a parlé de la difficulté il y a plusieurs axes d'amélioration qui sont absolument indispensables pour que ça aboutisse. On a parlé de pédagogie, alors effectivement, la pédagogie c'est absolument fondamental. On a un niveau culturel en France, enfin, en France, sans doute peut-être ailleurs aussi, enfin, je parle uniquement de ce que je connais un petit peu plus. Je pense qu'on a déjà fait l'expérience, on n'a pas le temps de le faire ici, hein, de savoir dans une salle, pourtant avec un public averti, si vous êtes bien conscient, par exemple, de votre consommation annuelle d'électricité, à 0,5 MWh près, en général, il y a au moins la moitié de la salle qui ne sait pas, voire même la puissance de son compteur électrique. Et en termes de pédagogie, on a énormément à faire, je crois, pour aller vers une bien bonne prise de conscience et une réappropriation vraiment citoyenne des problèmes de l'énergie.
On l'a en euros, c'est déjà pas mal, ça permet de se dire, de réduire.
Voilà.
On a besoin d'avoir les mégawattheures.
Deuxième point, excusez-moi, je vais vite parce qu'on me dit d'aller vite, mais après il y a les questions, on pourra revenir bien sûr. Deuxième point, il y a un certain nombre de freins à l'autoconsommation. Déjà sur l'individuel, si vous avez un pavillon, vous mettez un toit solaire, vous avez deux solutions. Soit vous revendez votre électricité à EDF ou à ENERCOM, d'ailleurs je vous conseille plutôt à ENERCOM. C'est des tarifs de toute façon qui sont fixés par décret, hein, donc voilà. C'est beaucoup beaucoup plus rentable que de faire de l'autoconsommation. Donc déjà, vous n'avez pas. Voilà. Alors, c'est les choses qui ont changé. Évidemment, pourquoi ça va changer? Parce que, si vous voulez, les tarifs d'achat de l'électricité photovoltaïque, ça baisse tous les ans, ce qui est complètement normal, parce que au départ, vous avez un tarif qui est un tarif aidé pour lancer une filière. Au bout d'un moment, il faut une filière puisse voler de ses propres ailes et s'adapter aux réalités du marché. Sinon, la filière n'est pas bonne. Voilà, donc ça ne fait que baisser. Et par ailleurs, le coût du photovoltaïque ne fait que baisser également, puisque, en fait, on prévoit encore. Les professionnels, beaucoup de professionnels de différents domaines le disent. En tout cas, les perspectives pour le photovoltaïque, c'est encore une diminution par deux du coût d'ici 2030. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, ce qu'on appelle la parité réseau est rapidement atteinte, ça qui devient moins cher effectivement de produire son propre kilowattheure que de l'acheter à un consommateur. Voilà. Économique également, parce qu'en termes d'autoconsommation collective, cette fois, qui fait plus sens, comme on essaie de le dire, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui, donc une notion déjà de complexité, la personne morale, la refacturation, c'est extrêmement compliqué de faire, malgré les certains nombres de projets que vous l'avez vu, on en a témoigné, marche et font sens, ça reste extrêmement compliqué aujourd'hui, on doit simplifier, et je dirais là-dedans, il y a aussi l'équation économique qui est extrêmement compliquée, puisque, même pour le collectif, puisqu'en fait, faire de l'autoconsommation collective, c'est considéré comme un acte de vente. Et en tant que tel, vous êtes soumis par exemple à toutes les taxes. Et vous savez qu'en matière d'électricité, vous avez un tiers de votre facture, grosso modo, qui correspond à vos taxes. Surtout qu'en France, on a cette curieuse manie de non seulement de payer les taxes, mais de payer des taxes sur les taxes. On paye la TVA, par exemple, sur les TCFE, sur la CTA, toutes ces taxes que vous trouvez dans le facteur d'électricité, donc c'est extrêmement compliqué. Et je vais terminer, mais pour dire simplement une chose qui est extrêmement importante, c'est que les perspectives. Alors, à la fois en France, mais dans d'autres pays européens qui sont annoncés pour l'autoconsommation, sont phénoménales. Je disais 35 000 en France, vous savez qu'en Allemagne, c'est déjà 1,5 million, je crois. Mais il n'empêche que les Allemands prévoient, de plusieurs sources, d'arriver à 4 ou 5 millions. En France, RTE prévoit à l'horizon 2030 ou 40, je ne sais plus, on va vérifier, mais en tout cas, également 2 à 3 millions de sites d'autoconsommation. Donc, de toute façon, c'est quelque chose qui va être considérable. Et ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que ça va poser un problème. Enfin, un problème. C'est un changement de paradigme complet sur le réseau. Et là, je pense que dans cette chaire, c'est quelque chose qu'on doit bien étudier. Puisqu'en fait, on remet complètement en cause les fondements même du réseau électrique français, qui sont basés sur des idées extrêmement fortes. On peut ou pas être d'accord avec, mais en tout cas, c'est déconstruit comme ça. Pour n'en citer que deux, vous avez évidemment la péréquation tarifaire, le fait que partout en France, vous payez votre kilowattheure au même prix et le prix de l'acheminement au même prix, et le principe du timbre-poste, en fait, quand vous écrivez à votre voisin qui habite de l'autre côté de la rue ou à l'autre bout de la France, vous payez le même timbre. Eh bien, c'est pareil en termes d'électricité.
vous allez payer l'acheminement de l'électricité au même prix que vous consommiez avec une unité de production qui est à 3 mètres de chez vous ou qui est à l'autre bout de la France. On se rend compte que là, notre consommation va complètement à l'encontre de cette idée-là, puisque effectivement, ça veut dire que localement, vous allez produire l'électricité de différentes façons, et donc avec des coûts de revient qui vont être différents, et donc vous allez finalement avoir des prix de l'électricité qui risquent d'être, qui vont être différents pour les uns et les autres, avec un besoin de réseau qui va continuer à être extrêmement fort, puisque la structuration grosso modo du réseau dépend des idées de pointe, enfin des besoins de pointe plutôt que des besoins de voilà. Et les besoins de pointe risquent de rester les mêmes, c'est les moments où justement votre autoconsommation ne sera pas suffisante, et donc vous aurez à faire appel au réseau. Donc que devient le réseau de distribution dans ce contexte-là, avec ces chiffres annoncés aussi forts de développement d'autoconsommation? C'est une véritable difficulté, je pense qu'il ne faut pas se la cacher, et une grosse réflexion, effectivement, et on comprend bien qu'Enedis s'intéresse beaucoup et travaille beaucoup sur ces sujets-là. On monte au labo de l'ESS avec des professionnels. Un groupe de travail, justement, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Parce que notre idée, c'est qu'avant vraiment de lancer la machine, il y a véritablement une réflexion amont à avoir, qui n'est pas encore complètement suffisante aujourd'hui, très clairement. Et il y a énormément de travail avant que la réalité du terrain nous pose des problèmes au niveau du réseau électrique français. Voilà, je m'en rejoins.
Merci. Juste peut-être un commentaire. Justement, je sais que Jean-Baptiste a lu avec attention à la fois le livre de Michel Barbier en 2017. Mais aussi sa tribune récente dans le groupe sur justement le potentiel en termes de solidarité et de nouveau précaire énergétique. Mais la table ronde numéro 3, avec Thierry Gibert notamment, pour Enedis, reviendra sur ces questions-là, ces enjeux tarifaires et de solidarité. Je propose qu'on vous passe la parole, si vous voulez réagir comme Bernard, faire ou poser des questions.
Est-ce que quelqu'un a une question? Bonjour, merci. Jean-Yves Grandédier, la société Valorem. C'est plus une remarque qu'une question. Et qui s'adresse plutôt à l'expérience que nous a présentée M. Guichard là, sur les archives départementales. Vous avez installé en fait 80 kW-crêtes, parce que j'ai compris, sur une toiture qui fait 10 000 m². Et je comprends, même si ça n'a pas été clairement dit, que c'est pour pouvoir maximiser l'autoconsommation, alors que, en fait, sur 10 000 m², on peut mettre beaucoup plus que ça. On peut mettre 200, 300 kW, alors il faut voir en fonction des dispositions des toitures, etc. Je pense que c'est une erreur. Quand on a, même si on veut faire l'autoconsommation, quand on a un site qui est potentiellement intéressant, favorable à équiper, à ce moment-là, il faut déjà, ça c'est une règle d'or, il faut maximiser son équipement. Et on voit trop souvent, alors qu'aujourd'hui on a des tarifs effectivement intéressants pour les particuliers, sur 9 kW, des 9 kW crête, par exemple, pour les particuliers, des gens qui mettent que du 3 kW pour pouvoir rester dans un cadre de maximisation de l'autoconsommation. Alors je suis d'accord avec la remarque de Patrick Bem sur le fait qu'on a intérêt à revendre intégralement et pas à tout consommer. Ça c'est un peu dommage que la réglementation soit faite comme ça pour inciter cela. Et malgré tout, attention, si on ne maximise pas les équipements qu'on peut faire sur des toitures, ça veut dire qu'une partie, la production photovoltaïque dont on aura besoin dans un mix équilibré, il faudra qu'elle se fasse au sol et au sol à un moment donné sur des surfaces agricoles. Donc il est important malgré tout, et surtout à Périgueux, vous êtes à Périgueux, si vous ne consommez pas dans les archives, c'est pas grave, ça va être consommé en circuit court, quoi. Alors après c'est vrai que la réglementation de l'autoconsommation ne le permet pas, ce que disait Patrick Bem sur le timbre poste, etc. Il y a toute une réglementation à changer, mais déjà, philosophiquement et dans l'esprit, il faut maximiser, quand vous avez un site à équiper, maximiser l'installation pour diminuer les coûts de revient de votre production photovoltaïque. Puis après, espérons que la réglementation suivra pour pouvoir permettre que l'équation économique soit au rendez-vous.
Alors pourquoi, effectivement, nous n'avons pas exploité la totalité de la surface du bâti? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'était vraiment dans un cadre d'autoconsommation individuelle. Donc, on s'est basé, au début du projet, effectivement, on prévoyait de
réduire la totalité de la surface et faire bénéficier les partenaires locaux autour de la production photovoltaïque qui pourrait être créée sur le plan des archives départementales. Pourquoi ça n'a pas été fait? Parce que seules les archives départementales seront bénéficiaires de cette production d'autoconsommation. Autour du bâtiment, alors, ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a une clinique qui a également des panneaux photovoltaïques qui sont juste à côté, et ce sont que des gros consommateurs, tarifs jaunes, tarifs verts, qui se trouvent à proximité des archives départementales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'un point de vue structurel. En fait, une grosse difficulté pour mettre des panneaux photovoltaïques sur une toiture qui est existante, on doit faire passer un bureau d'études structure pour s'assurer que la toiture est capable de supporter le poids supplémentaire lié à ces panneaux d'autoconsommation. Alors, les panneaux photovoltaïques, ça ne pèse rien, mais par contre, ils doivent être lestés pour supporter le vent, etc. Donc, il y a des contraintes architecturales qui sont à prendre en compte et qui sont vraiment très loin d'être négligeables parce qu'elles font souvent capoter de nombreux projets. Alors, c'est les architectes du bâtiment de France, parce qu'on est dans le secteur sauvegardé de la ville de Périgueux, et c'est également les contraintes structurelles liées au bâti. Ça, c'est la deuxième chose. Mais on se réserve quand même le droit d'augmenter la capacité de production photovoltaïque sur cette toiture. Et la dernière raison, c'est qu'en fait, on répond à un appel à projet de la région Aquitaine qui impose notamment, la région Nouvelle-Aquitaine, qui impose notamment un taux d'autoconsommation de 80% et un taux d'autoproduction de 30% pour pouvoir bénéficier de ces subventions. Alors, pour avoir ces taux de 80% et ces taux de 30%, il est nécessaire, en plus des panneaux photovoltaïques, des modulaires, etc., de mettre en place des moyens de régulation de la consommation électrique du bâtiment et des moyens de stockage. Et en fait, pour répondre à cet appel à projet, on devait également avoir cette capacité de production qui ne soit pas trop importante et qui réponde en fait aux différents critères de la région de Nouvelle-Aquitaine. Et c'est pour nous, conseil départemental, l'objet de ce projet, c'est un site pilote. Voilà, c'est dans le cadre d'un site pilote. Les autres projets qu'on a en tête, qu'on n'a pas évoqués, on maximisera la surface de toiture. Et on a des collèges qui sont équipés en revente totale. On a 19 collèges équipés en revente totale de panneaux photovoltaïques. On a maximisé, bien évidemment, la toiture disponible.
Merci.
Bernard Comte, je voudrais parler un peu aussi d'économie, mais je voudrais poser la question, en fait, une question en représentant le Giron d'Habitat, qui est le projet le plus avancé. Vous aviez trois solutions. D'ailleurs, je crois qu'au départ, vous n'aviez pas forcément choisi l'autoconsommation, mais plutôt de recourir à l'obligation d'achat. Ou peut-être aviez-vous même envisagé d'abord, dans un premier temps, d'envie de raccorder au réseau et puis de ne pas autoconsommer ni produire. En tout cas, est-ce que vous aviez trois solutions donc, pour alimenter ces bâtiments? Est-ce que vous aviez fait une étude, un bilan, une prévision sur finalement la rentabilité des trois solutions? Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est bien de surfer sur la mode de l'autoconsommation, mais faut-il que ça ait un sens et qu'économiquement ce soit intéressant. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas tellement se permettre de jeter l'argent par les fenêtres. Donc est-ce que vous aviez envisagé les trois et comparé les trois solutions? Et j'aurais une deuxième question, toujours économique, mais qui s'adresse à Enedis. Ça a été dit à la fin de la table ronde, hein. ça a des conséquences sur le réseau d'Enedis. Mais bien avant de remettre en cause la notion même de réseau, ça remet déjà en cause le modèle économique d'Enedis, puisque Enedis est rémunéré, entre autres, à la production, à la consommation de ses clients, enfin au kilowattheure distribué. Et donc, avec l'autoconsommation, on voit bien, on perd entre 20, peut-être 30%, enfin 30% ça paraît optimiste d'ailleurs, mais bon, mettons 20% des recettes. Si tout le monde était devenu autoconsommateur, Enedis perdrait 20% de ses recettes. Alors je sais que dans le cadre de la loi de transition, ça avait été évoqué. Est-ce que depuis on a réfléchi, est-ce que dans le nouveau TURP on tiendra compte de cette évolution, ou est-ce que pour l'instant c'est encore en chantier, sachant que l'autoconsommation est encore marginale, donc ça ne doit pas trop se voir dans les comptes d'Enedis?
Donc je vais bien essayer de répondre à la première question. Avant de parler d'études comparatives, on avait une obligation. L'obligation qu'on s'était donnée d'ailleurs, c'était d'avoir un bâtiment qui atteigne le niveau BVC Finergie. Et pour ce faire, on a installé les 250 m² de panneaux qui sont en toiture. Effectivement, au départ, c'est ce que j'ai rappelé, ce n'est pas une opération d'autoconsommation collective, c'est une expérimentation d'autoconsommation collective, puisque le bâtiment n'a pas été conçu pour ça. L'opération n'a pas été conçue pour faire de l'autoconsommation, puisqu'au moment où elle a été imaginée, ça n'existait pas. Donc, à l'avenir, on verra les choses différemment. Ensuite, est-ce qu'on a fait des études comparatives des différentes solutions ? Eh bien, en partie, pas complètement. Pourquoi pas complètement ? Parce que c'est un peu dans l'ADN des bailleurs sociaux, et quelque part peut-être heureusement, c'est que le monde du logement social est un monde où on expérimente beaucoup de choses. Et ça devient après, ça rentre après dans le domaine public en quelque sorte, quoi. Il nous a semblé super intéressant de tenter cette expérimentation d'autoconsommation sans aller regarder si quelle était la solution économique la plus pertinente. Pour diverses raisons, nous avons toujours une difficulté dans le monde social, c'est il nous est difficile de parler de retour sur investissement, puisque c'est le bailleur qui investit et généralement c'est le locataire qui envoie un retour. Mais il envoie un retour théorique, parce qu'en fait il envoie un retour ou il n'envoie pas. Ça dépend comment il se comporte derrière. Vous voyez, on a toujours cette problématique-là. Donc là, on l'a plutôt tenté pour voir un peu ce qui se passait avec ces sujets-là. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est d'essayer de faire... Enfin, ça a été dit par tous les intervenants, d'ailleurs. Hein, c'était de faire prendre conscience aux occupants de ces logements, qui sont des locataires, qui n'ont rien demandé. Quand vous avez un propriétaire qui investit dans des panneaux solaires ou quelque équipement chez lui, ben, un propriétaire, il dit, ben, j'ai mis tant d'euros, je veux voir comment ça retourne. Un locataire, lui... il a la chance d'avoir un logement et un logement social en plus où le loyer est déjà bas. Il faut vraiment qu'il soit motivé ou qu'on cherche à le motiver pour arriver à faire quelque chose. Et malgré tout, il faut qu'on fasse ça. Là, il ne faut pas qu'on lâche le morceau, ça a été dit aussi, parce que c'est un des enjeux de la baisse de consommation d'énergie et d'une baisse de coût de charge pour chacun. Donc non, on n'a pas fait d'études en bonne et due forme pour savoir quelle était la solution économique la plus rentable. Au point où on en était, la solution économique la plus rentable, avec les subventions qu'on avait obtenues, c'était de brancher les panneaux solaires sur le siège à côté. Et on a décidé de faire autre chose, justement, pour explorer d'autres horizons.
Peut-être... répondre rapidement au point qui a été évoqué, mais à la fois par M. Ben et puis, je ne sais plus où est Bernard, là, je ne te voyais pas. L'impact sur le réseau, l'impact technique et l'impact financier. Bon, qui sont deux choses évidemment essentielles, qui font d'ailleurs l'objet de deux thèmes qu'on va évoquer cet après-midi. Donc je vais essayer de faire des réponses très courtes, parce que certains d'entre vous doivent commencer à avoir faim. Très rapidement, sur l'aspect technique. L'enjeu, en fait, ce n'est pas tellement autoconsommation individuelle, collective, obligation d'achat ou des choses de cette nature. L'enjeu, c'est la multiplication de la production intermittente et décentralisée sur le réseau français. Qu'il soit en obligation d'achat ou en autoconsommation, peu importe, vu de l'ingénieur, les lois d'électricité sont les mêmes et les flux énergétiques sont les mêmes, quelle que soit la procédure d'achat ou d'autoconsommation. Aujourd'hui, il y a à peu près 600 000 à 700 000 installations de production décentralisée raccordées sur le réseau en France. L'objectif est de multiplier par 2 ou par 3. L'objectif de la PPE, c'est de multiplier par 2 ou par 3 ces installations de production décentralisée. On s'y prépare. Le rôle des NEDIS, c'est d'apporter des solutions à ça, des solutions techniques. En tant qu'ingénieur, on est relativement confiant pour faire fonctionner un réseau de façon satisfaisante quand il y aura 1 million, 2 millions, 3 millions d'installations photovoltaïques et éoliennes raccordées au réseau de distribution, puisqu'aujourd'hui le taux est de l'ordre de 95% des installations photovoltaïques et éoliennes sont raccordées soit au réseau 400 volts, au réseau basse tension, soit au réseau moyenne tension jusqu'à 20 000 volts. J'y reviendrai plus en détail cet après-midi, comment on s'organise et quels sont les axes de réflexion pour apporter des solutions techniques à ça. Sur les aspects financiers, là aussi, le principe du TURC, le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité qui nous finance, c'est de couvrir nos coûts. Donc je dirais, indépendamment d'ailleurs des flux d'énergie qui passent dans les... sur le grand principe, hein, indépendamment des flux d'énergie qui passent sur le réseau, on a un certain nombre de coûts qui sont justifiés au regard d'un benchmark et des études que fait la Commission de régulation de l'énergie, et ensuite elle élabore un tarif pour couvrir le coût. Et ce tarif, il est basé sur deux aspects. Le premier, c'est effectivement les flux énergétiques, et l'autre, c'est sur ce qu'on appelle la prime fixe au regard de la puissance qui est demandée par les clients à travers la tarification. Alors, je ne vais pas rentrer dans quelque chose de trop technique, hein, mais le réseau aura évidemment le challenge de raccorder toutes ces nouvelles installations photovoltaïques ou éoliennes, essentiellement, encore une fois, deux fois ou trois fois ce qui s'est fait aujourd'hui ces dix dernières années. Mais on aura aussi le rôle un petit peu assurantiel de faire fonctionner l'alimentation électrique pour tout un chacun, en tout lieu du territoire, même, je dirais, quand il y a une pointe de consommation à 7h du matin, quand il fait nuit l'hiver, ou à 8h du soir, quand il fait nuit l'hiver, ou même quand il y a une panne, quand il y a ce qu'on appelle, nous, les schémas de fonctionnement N-1 ou N-2. Donc, son rôle assurantiel, également, ben, ça a une valeur, hein, et c'est à la Creux de définir quelle sera cette valeur et la répercussion sur le coût. En tout cas, notre challenge à nous, ce sera de trouver des solutions pour que ça marche et qu'on continue à appuyer tous les matins quand on se lève sur l'interrupteur et que ça s'éclaire sans difficulté, quel que soit le moment de la journée. Il faudra trouver des solutions techniques et il faudra ensuite trouver des solutions qui soient les plus économes pour la collectivité locale, pour la collectivité, pardon, au sens large, pour qu'effectivement, en termes de coûts, sur les factures d'énergie, ce soit le plus faible possible, sous couvert évidemment de challenges et de supervision de la Commission de régulation de l'énergie. Puisque je rappelle que le coût du TURP en France, hein, le coût des réseaux d'acheminement, est à peu près 30% moins cher aujourd'hui qu'en Allemagne. Et c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix d'Europe, voire du monde. Et nous avons bien l'intention, encore une fois, d'apporter des solutions techniques sur lesquelles je rentrerai un peu plus en détail cet après-midi, tout en restant très très performant d'un point de vue économique.
Merci Thierry. Bon, il est midi et demi. Comme on va reprendre à 13h30, je pense qu'on peut clôturer cette table ronde en remerciant les intervenants et en remerciant aussi pour votre écoute. Bon appétit et à tout à l'heure.